RLP.
C'est Maurice Meulier dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, nous arrive quelque chose d'extraordinaire. J'ai un adjoint. Un adjoint à la poésie. Vous vous rendez compte? Il paraît que ça existe maintenant. Et vous savez comment il s'appelle? Maël. Ben oui, c'est mon petit-fils. Oh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à l'antenne. Hein, enfin, qu'on ne l'avait pas entendu, parce que vous, pour le voir, vous ne le verrez pas. Mais nous, on n'arrête pas de le voir. Moi, je le vois 24 heures sur 24 maintenant. Hein, bon. Et depuis 11 ans. Figurez-vous que quand la première fois que je l'ai vu, il avait 3 heures. Et là, il est en train de jouer sur son smartphone, au lieu de lire sa poésie pour vous la lire tout à l'heure. Maël, devant les auditeurs et les auditrices, pourrais-tu ranger ton smartphone, s'il te plaît? Il veut pas. Bon, je sens qu'on va sortir le martinet du cartable où je mets mes livres de poésie. Ben oui, là, j'ai été obligé de l'amener, le martinet. Hein, ah, il paraît qu'il ne faut plus taper les enfants. Mais moi, si vous saviez le nombre de coups de martinet que j'ai pris quand j'étais gamin, et je ne suis pas mort. Et je respecte mes parents qui me les ont donnés, ces coups de martinet. Parce qu'au final, ils avaient raison. D'autant plus qu'ils avaient encore plus raison qu'à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Donc, on n'allait pas se faire taper parce qu'on... Tandis que là, lui va se faire taper parce qu'il a un smartphone dans les mains alors qu'on est en pleine émission de radio de son papy. Vous vous rendez compte, hein, quelle honte. Un irrespect total, total. Hein. Et il rigole dans ses moustaches. Non, pas encore, il n'a pas de moustache. Bon, alors Maël, qu'est-ce qu'on décide? C'est toi qui commences? Non, il ne veut pas commencer. Bon, alors c'est moi qui vais commencer. Alors, Serge Pey. Alors, on l'appelle le poète chercheur en action. Bon, c'est un peu vrai. Il est assez, enfin, pas bizarre, c'est qu'il est plutôt pas comme les autres, on va dire. Hein. Par exemple, il rythme sa poésie, alors pas comme du rap, hein, bien sûr, ça n'a rien à voir, hein, avec un bout de bois, et souvent c'est écrit sur le bout de bois, ce qu'il dit. Alors, et il tape comme ça, il rythme son texte, c'est super chouette. Et il venait, enfin je ne sais pas s'il vient encore, à ce festival qu'il y a à Périgueux, qui s'appelle, je ne sais plus comment, la fête de la poésie au niveau national, hein, Expoésie ça s'appelle, voilà, Expoésie. Parce qu'il n'y a pas que de la poésie, il y a aussi des expositions, voilà, d'où le jeu de mots, voilà. Hein. Et d'ailleurs, je crois que ça va démarrer au mois de mars. Et là, je vais vous lire un poème, ça s'appelle « Tombeau pour un miaulement ». Quand je parle de tes poèmes à un imbécile, c'est comme si je pissais face au vent en voulant que le vent change de direction. Les imbéciles sont vraiment nombreux sur Terre, sûrement plus nombreux que les poèmes que tu écris. Un imbécile ne porte pas de montre, mais décide de l'heure quand on parle de toi. Un imbécile peut diviser par zéro ton espérance. Un imbécile peut faire pleurer les oignons quand il parle de son suicide en affirmant qu'on l'assassine. Un imbécile feint d'ignorer la vérité en truquant une photo de la poésie. Pour un imbécile, 1000 exemples ne servent à rien et un seul mensonge prouve tout. Un imbécile peut dire qu'un monstre recrute des milliers d'anges dans son armée. Un imbécile peut déclarer que ce texte n'est pas un poème. Quand la tartine d'un poète tombe, l'imbécile croit que la confiture change de côté chaque plage, quelque part, dans un autre poème ou dans le monde. Quand le monde tombe, l'imbécile ne le sait pas. Voilà. C'est pas mal, hein? Ça rime bien tout ce que ça veut dire. Enfin, il n'y a que les poètes qui sont intelligents. Bah oui, la preuve, il le dit, quelque part. Même si il le dit pas, on le soupçonne. Voilà. Hein. Alors, voilà pour lui. Alors, maintenant, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter... présenter... mon dernier, deuxième tome de balade poétique au travers d'un prévert, parce que vous ne pourrez pas l'acheter parce qu'il n'y a qu'un seul exemplaire, mais c'est pour vous faire patienter, parce qu'il va arriver un moment où vous dire « Merde, il nous fait chier, Mélie, on va lui commander. » Et voilà. Et comme ça, quand j'aurai, par exemple, 150 000 commandes, on le fera imprimer, vous voyez, hein. Ben après, vous démerdez pour venir chercher, hein, les 150 000 personnes. Hein. C'est pas moi qui vais vous envoyer ça par la poste. Hein. Alors là, j'ai écrit ce poème, j'étais à Jérémy en Haïti en 2002. Et alors, figurez-vous que Jérémy, à l'aéroport, enfin, on ne va pas appeler ça un aéroport, un aérodrome peut-être, c'est marqué Jérémy, la cité des poètes. Vous vous rendez compte? Et c'est vrai, il y avait beaucoup de poètes, des jeunes d'ailleurs, ce qui est très rare que des jeunes soient poètes. Hein. Bon. Et là, moi, j'ai imaginé ce que pourraient être, on va dire, allez, des gens qui devraient être à la place de Napoléon au Panthéon, par exemple. Hein. Alors, le petit-fils d'un esclave noir, non, d'une esclave noire, pardon, coincé entre Victor Hugo et Émile Zola, Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola, Malraux et Dumas. Le Panthéon se remplit de belles écritures, à tel point que Napoléon semble bien petit à côté de ces montagnes de grande littérature. Si... Alors, je tenais à vous signaler que Napoléon voulait être tout seul au Panthéon. Mais bon, une fois qu'il était mort, il ne pouvait plus dessiner, il ne pouvait plus commander. Hein. Heureusement, parce que, vous rendez compte, c'est tellement immense ce truc-là, lui tout seul. En plus, c'était un petit nabo, hein. C'était un petit Napoléon, oui. Il n'était pas grand, hein, le mec. Hein. La preuve, c'est quand il touchait sa braillette, il croyait que c'était sa braillette, c'était son manteau. Vous vous souvenez, il mettait sa main dans son manteau. Et au final, il croyait toucher sa braillette tellement il était petit. Non, ça, c'est moi qui l'ai imaginé, mais... Ça pourrait être certainement vrai. Hein. Il ressusciterait, il dirait que oui, mais Maurice, tu as raison, certainement. Hein. Allez, si l'égalité existait en renommée, on pourrait y glisser à la place des militaires et juste aux côtés d'un Rousseau ou d'un Boussuge. Ben, Boussuge, il mériterait d'être là-bas. Hein. Un Jean de La Fontaine ou encore un Siméon. Alors Siméon, c'était justement le directeur du Printemps des Poètes. Hein. Alors, je ne pense pas, il n'est peut-être pas mort encore, lui, j'en sais rien. Mais la mémoire est parfois plus courte qu'un roman de 4 sous vendu sur le marché. Hein. J'imagine l'ombre des mousquetaires faisant une grande haie d'honneur pour l'entrée de son inventaire au Panthéon le samedi 30 novembre 2002, en criant d'un seul cœur « Ah, les cendres du mât !» Ben oui, parce que c'est les cendres qu'on met. Mais lui s'appelait Alexandre. Vous avez compris le jeu de mots à la con de Maurice Meunier. Bon. Te voilà enfin dans tes bretelles accrochées à ton panthéon, pas très loin du nabo de Léon. Puis, allant à la rapière à la main, vers le ministre de la Culture parisienne, qui, un genou à terre, se recueillait au pied d'une urne pleine de cendres, revenue d'un long exil en province. « Ô ministre intègre, ramène-nous un cochon de lait du Gers, des saucisses d'Agen et un pichet de 20 gabayons, afin que l'on ripaille pendant que ces cendres sont encore chaudes. » Voilà. Voilà. Alors, la naissance d'Alexandre Dumas, père, parce qu'il y a eu le fils aussi, 1802. Ouais, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Hein, ça fait quand même pas mal, hein. Alors, là-dessus, je vais faire intervenir mon petit-fils, s'il veut bien me lire un poème de Jacques Prévert. Et ça tombe bien parce que c'est bientôt la rentrée des classes. Hein. Alors, tu prends... Non, celui là-bas, oui, le cancre. Voilà. Fais pas la tête. Il fait la tête. Ça, je sais pas si on va en faire un poète de celui-là. Hein. Un poète-poète, oui, mais pas un poète. Allez, mets près du micro, sinon on va rien entendre. Allez.
Le cancre.
Le cancre.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend. Il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, tous les huées des enfants prodiges. Avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert.
Voilà, Jacques Prévert. Alors, le cancre, ça tombe bien, parce que tous les cancres vont rentrer à l'école lundi. Ben oui, je ne l'ai pas choisi par hasard. Je ne l'ai pas fait lire à mon petit-fils par hasard non plus, parce qu'il fait partie des cancres, comme les autres. Alors, il y en a, c'est les cancres là. Alors, si on passe un petit peu de musique. Alors, une femme que j'aime beaucoup, Yasmina Levy. Fantastique, cette femme.
Estarás cerca de mi corazón parece me mueras. Y a mí me haces mucho sufrir cuando amanecer y escurece. ese. Te va a mí, haces mucho sufrir. Cuando amanece, descúbreme ese. Por la calella que pasarás, de la mi su nombre te manumbrarás. Te haces mucho pechame. Quanto de mi te accoderas, te haces mucho bacheras. Quanto de mi te accoderas. De mi corazón parecerás. Te a mí me haces mucho sufrir. Cuando amanece descúbreme ese. Te a mí me haces mucho sufrir. Cuando amanece descúbreme ese. Cuando amanece descúbreme ese. Cuando amanece.
Et voilà. Alors je vous passerai d'autres chansons d'elle. Elle a de très belles. Elle a un Alléluia, c'est peut-être le plus beau que j'ai entendu de toute ma vie. Moi, pourtant, qui suis athée. Mais la musique religieuse, ou ce qu'on appelle la musique sacrée, c'est pas inintéressant au niveau du son, au niveau de la mélodie. Hein. Même des fois des paroles, du contenu. Hein. Tout dépend à qui on s'adresse, et pourquoi on le fait, et comment, et pour qui. Hein. Voilà. Alors... Missak Manouchian, ça devrait vous interpeller, puisqu'ils viennent enfin de mettre ses cendres, enfin son tombeau, son cercueil, au Panthéon, avec son épouse. Alors, il est mort bien avant son épouse. Et j'ai recueilli quelques poèmes de lui, parce que ça me semblait normal que aussi des poètes puissent le mettre en avant, lui fassent un hommage, hein. En tant que poète, mais il n'a pas été que poète. Hein. C'était un résistant. Hein. Alors, il fait partie de ce qu'ils appelaient la fiche rouge. Hein. Et c'était lui, donc, Missak Manouchian, qui était leur chef militaire. Ce n'est pas une armée, c'était des clandestins, bien sûr. Mais ils avaient pour mission de tuer un maximum de généraux allemands, de chefs allemands. Bon. Ils n'ont pas été jusqu'à tuer Hitler, parce qu'Hitler était dans son bunker, et il commandait tout de son bunker. Alors voilà, c'est le combattant des francs-tireurs partisans, de la main-d'œuvre immigrée, mort en 1944, pour la France et la liberté. Et quand il est mort, il avait appris qu'il y avait eu le débarquement. Donc il a dit, ah, enfin, moi je ne le verrai pas, parce qu'il savait qu'il était condamné, mais la France va être libérée. Voilà. Alors son poème s'appelle « Le miroir et moi ». Dans tes yeux de la fatigue, et sur ton front tant de rides, parmi tes cheveux les blancs, vois dans tes blancs camarades. Ainsi me parle souvent l'investigateur miroir, toutes les fois que, muet, je me découvre seul en lui. Tous les jours de mon enfance et les jours de ma jeunesse, je cœur parfois tout disjoint, les brimais pour l'Holocauste sur l'autel des vanités tyranniques de ce temps, naïf, tenant pour abri l'espoir. Tant de fois promis, comme un forçat supplicié, comme un esclave qu'on brime. J'ai grandi nu, sous le fouet de la gêne et de l'insulte, me battant contre la mort, vivre étant le seul problème. Quel guetteur têtu je fus, des lueurs et des mirages. Mais l'amertume que j'ai bue aux coupes du besoin s'est faite, chère devenue, que révolte qu'énergie. Se propageant avec fureur, mon attente depuis, enfuit jusqu'au profond du champ mes cris alimentaires. Et qu'importe, peu n'importe, que le temps aille semant sa neige sur mes cheveux, cours fertile qui s'élargit et qui s'approfondit au cœur de toute humanité. Humanité très maternellement, et nous discutons dans un face-à-face à contre-temps. Moi, naïvement songeur, lui, ironique et lucide, le temps. Qu'importe ce blanc qui pose sur mes cheveux, mon âme, comme un fleuve, est riche de nouveaux courants. Voilà. Alors j'en ai un autre, mais je vous le lirai la prochaine fois. On ne va pas lire tout le temps des poèmes de la même personne, malgré que ça vague le coup. Par exemple, j'ai aussi un texte de lui qui s'appelle « Aux travailleurs immigrés ». Quand je vois vos visages bronzés, fouettés sans cesse par le vent et la pluie. Bon, mais on vous le dira une autre fois aussi, ça. Voilà. Alors là, j'ai un texte exceptionnel. Je vais d'abord le lire et je vous dirai l'auteur après. Parce qu'il n'était pas que poète, celui dont je vais vous lire le texte. Hein. Mais vous verrez. Alors peut-être que certains vont trouver qui. Et puis sinon, je vous le dirai. Bon, vous m'envoyez un billet de 10 euros et puis je vous dirai le nom, par exemple. Hein. Alors j'espère que vous allez être nombreux. Hein. Ça s'appelle « La métamorphose de Narcisse ». Quand l'anatomie claire et divine de Narcisse se penche sur le miroir, miroir obscur du lac, quand son torse blanc, plié en avant, se fige, glacé dans la couche argentée et hypnotique de son désir, quand le temps passe sur l'horloge des fleurs du sable de sa propre chair. Narcisse s'anéantit dans le vertige cosmique au plus profond duquel chante la sirène froide et dionysiaque, de sa propre image, le corps de Narcisse se vide et se perd dans l'abîme de son reflet, comme le sablier que l'on ne retournera pas. Narcisse, tu perds ton corps, emporté et confondu par le reflet millénaire de ta disparition. Ton corps frappé de mort descend vers le précipice des topazes aux épaves jaunes de l'amour. Ton corps blanc, englouti, suit la pente du torrent férocement minéral des pierres noires au parfum âcre. Ton corps, jusqu'aux embouchures mates de la nuit, au bord desquelles étincelle déjà toute l'argenterie rouge, aux aubes, aux veines brisées dans les débarcadères du sang. Narcisse, comprends-tu la symétrie, l'hypnose divine de la géométrie de l'esprit comble déjà ta tête de ce sommeil inguérissable, végétal, atavique, élan, qui dessèche la cervelle dans la substance parcheminée du noyau de ta proche métamorphose. C'est beau, hein? Vous allez voir qui c'est. Là, vous allez être surpris. Hein, c'est presque l'équivalent de son œuvre pictural. Bon, je ne vais pas vous en dire plus, sinon vous allez me donner le nom. Je vais perdre 10 euros à chaque fois. La semence de ta tête vient de tomber dans l'eau. L'homme retourne au végétal et les dieux, par le sommeil, lourd de la fatigue, par l'hypnose transparente de leur passion. Narcisse, tu es si mobile que l'on croirait que tu dors. S'il s'agissait d'Hercule, rugueux et brun, on dirait, il dort comme un tronc dans la posture d'un chêne herculéen. Mais toi, Narcisse, formé de timides éclosions parfumées d'adolescente transparence. Tu dors comme une fleur d'eau. Voilà que le grand mystère approche, que la grande métamorphose va avoir lieu. Narcisse, dans ton immobilité, absorbé par ton reflet, avec la lenteur digestive des plantes carnivores, devient invisible. Il ne reste que lui, que l'ovale hallucinant de blancheur de sa tête de nouveau plus tendre, sa tête chrysalide. D'arrière-pensée biologique, sa tête soutenue au bout des doigts de l'eau, au bout des doigts de la main insensée, de la main terrible, de la main coprophagique, excusez-moi. Il utilise des drôles de termes, ce mec-là, hein. Bon, il faudra que je lui dise, hein. De la main mortelle de son propre reflet, quand cette tête se fendra, quand cette tête se craquellera, quand cette tête éclatera, ce sera la fleur. Le nouveau Narcisse. Gala, mon Narcisse. Et alors là, qu'est-ce que vous me dites? Non, c'est pas lui, non. C'est pas Victor Hugo, non. Non, c'est pas Jules Supervielle, non. Mais non, c'est pas Jacques Prévert, hein, oh, mamie, arrête, tes conneries. T'as un livre de lui chez toi, bon. Alors bien sûr, on savait pas qu'il écrivait des poèmes. D'ailleurs, je vais faire une recherche sur Internet pour savoir s'il en a écrit d'autres. Parce que c'est intéressant ce qu'il écrit, hein. Bon, allez. Mamie, tu donnes ta langue au chat? Ah, t'as pas de chat? Bon, c'est pas grave. Eh bien, c'est simplement Salvador Dali. Eh oui. Il est né en 1904, il est mort en 1989. Hein? Vous vous rendez compte? Oh, il est mort, j'avais 45-50 ans presque, moi. Vous vous rendez compte? Et alors, je suis amoureux de son œuvre, moi. Je collectionne tous ses tableaux en numérique. C'est facile, hein. Et ça coûte moins cher que les originaux. Hein. Mais c'est incroyable. J'en trouve encore sur Internet des œuvres que je n'avais pas encore vues. C'est incroyable ce qu'il a écrit. Enfin, ce qu'il a écrit. Ça, je ne sais pas encore s'il a écrit beaucoup de choses. Hein. Salvador Dali. Est-ce que vous auriez pensé un seul instant que Salvador Dali aurait pu écrire ça? Moi, je me dis que oui, parce que c'était quand même un sacré illuminé. Et son texte, il est quand même très illuminé aussi. Hein. Il y a beaucoup à dire hein, sur ce texte. Hein. Bon, voilà. Mais si j'ai encore, si je vais chercher. Hein. Et je vous promets que je vous relirai du Salvador Dali. Hein. Par contre, je ne pourrais pas vous faire voir ses œuvres. Hein. Alors ça, démerdez-vous, hein. Vous avez Internet, vous pouvez aller les voir. Hein. Bon. Alors, tiens, on va passer. Tiens, un petit Bob Marley, ça va pas faire de mal. Hein. Ça fait du bien. Vous savez, la plupart de ces chansons, c'est des chansons de paix, d'amitié, d'amour. Hein. C'était pas un fou de guerre, hein, au contraire. Souvent, il y a des citations de lui sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux. Et vous verrez, c'est jamais un va-t-en-guerre, en tous les cas. Alors là, j'ai un poème de moi. Oui, parce que ça arrive. Hein. Ça arrive que je lise de mes propres poèmes. Hein. Ben oui. Ben, il faut, parce qu'en plus, j'ai personne pour m'interdire. Hein. Je suis maître à bord. Bon, j'ai mon petit-fils à côté, mais lui, il va rien me dire. Il est en train de jouer avec son smartphone. Ouais, figurez-vous. Vous savez, cette espèce de truc, là, avec un petit écran, là. Il appuie sur des boutons, puis d'un seul coup. Et puis alors, il a le casque, mais là, c'est le casque de la radio. Donc, parce que des fois, il met son casque à partir de son smartphone pour pas que ça fasse de bruit, figurez-vous. Eh oui. Mais là, il n'entend rien, parce que c'est moi qui l'entends, d'ailleurs. Allez. Ce fut écrit le samedi 29 mai à 2021 à 2h45, la nuit, bah oui, parce qu'il fait encore nuit à 2h45 le matin. Ça, c'est quand j'ai des insomnies, et je me dis, profite de tes insomnies pour faire de la poésie. Vous voyez, c'est pratique, hein. Comme ça, dans la journée, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, mais pas de la poésie, puisque vous faites ça la nuit. Hein. Et on dit, la nuit porte conseil. Moi, je dis, la nuit, c'est porte-plume. Ouais, pareil. Allez, une phrase sans titre. Ça arrive, ça, une phrase sans titre. Hein, comme un poème sans titre. Hein. Et moi, je n'ai pas de titre non plus. Ah si, j'étais maréchal des logis dans l'armée. C'est quand même maréchal. Hein. C'est pas tout le monde qui peut être maréchal. Alors, et maréchal des sans-logis, vous rendez compte? Ben, je l'étais aussi, puisque je me suis occupé des sans-logis. Allez, une phrase sans-tine. C'était le bon moment pour faire le point avec moi-même. Mais encore une fois, les virgules n'étaient pas très chaudes de me voir remuer mon passé dès maintenant. Être, ne pas se savoir être. Est-ce être un superlatif? Le point était impatient d'intervenir malgré la priorité des virgules ironiques d'être bien avant le point. La phrase pourtant concernée attendait sagement en s'allongeant au fur et à mesure sur le papier comme une grande paresseuse à qui on laisserait la liberté de s'exprimer. C'est surtout la teneur de la phrase qui s'inquiétait d'arriver jusqu'au point sans avoir le pouvoir de dire un seul mot. Soudain, sans y être invité, un point d'exclamation entra en fin de phrase en usurpant la place du point. Le crayon à papier était dans tous ses états en se rendant compte qu'il n'avait pas la mainmise malgré son importance en tant que maître d'œuvre. Mais c'était sans compter sur la gomme qui, au bas du papier, attendait calmement son tour pour intervenir dans ce conflit. Elle savait qu'elle aurait le dernier mot, malgré sa vocation d'effacer juste avant le point final ce qui se disait être interrogatif. Voilà. Vous vous rendez compte un peu cette bataille, hein, entre les ponctuations. Oui. Alors la ponctuation, le crayon, la gomme, et puis moi, bien sûr, automatiquement. Hein. Moi, je ne suis pas innocent dans cette histoire-là. Hein. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu viens foutre dans ce poème? Mais merde, c'est quand même moi qui l'ai écrit. Allez pas me dire le contraire. Bon, allez, arrête-moi, je te déconne. Bon, allez, on passe à autre chose. Alors, oh allez, tiens, je vais vous faire un petit Jean d'Ormesson. Il reste 2 minutes. Bon, alors je vais vous le lire très vite. Écoutez bien, hein. Bon, parce qu'il est un peu long quand même. Hein. Alors, c'est un billet d'humour de Jean d'Ormesson en hommage à la langue française. Et Dieu sait s'il a manipulé pas mal, lui. Hein. Il n'avait pas besoin d'une fourchette et d'un couteau pour la manipuler. Hein, enfin, je ne parlais pas de la langue de bœuf. Hein. Bon, là, oui, il faut une fourchette et un couteau pour la langue de bœuf, mais pas pour la langue française. Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe, ou simplement un chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenus chèvres pour une caille aux yeux de biche. Vous arrivez à votre premier rendez-vous, fier comme un paon et frais comme un gardon. Et là, pas un chat. Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin. Il y a anguille sous roche. Et pourtant, le bouc émissaire qui vous a obtenu ce rencard, la tête de linotte avec qui vous êtes copain comme cochon, vous la certifiez, cette poule a du chien, une vraie panthère, bien sûr. Vous serez un crapaud mort d'amour, mais tout de même. Elle vous traite comme un chien, vous êtes prêt à gueuler comme un putois quand finalement la fine mouche arrive. Bon, vous vous dites que 10 minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Hein. Bon. Et sauf que la fameuse souris, malgré son coup de cygne et sa crinière de lion, est en fait aussi plate qu'une limande. Miope comme une taupe, elle souffle comme un phoque. Et rit comme une baleine. Une vraie peau de vache, quoi. Et vous, vous êtes fait comme un rat. Vous roulez des yeux de merlan frit. Vous êtes rouge comme une écrevisse. Et vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez. Mais vous sautez du coq à l'âne. Vous finissez par noyer le poisson. Vous avez le cafard. L'envie d'en prendre, l'appris vous prend de pleurer comme un veau. Ou de verser des larmes de crocodile, c'est selon. Hein. Vous finissez par prendre le taureau par les cornes. Et vous inventez une fièvre de cheval qui vous permet de filer comme un lièvre. C'est pas que vous êtes une poule mouillée, vous ne voulez pas être le dindon de la farce. Vous avez beau être doux, comme un agneau, sous vos airs d'ours mal léchés, faut pas que vous preniez pour un pigeon, car vous pourriez devenir le loup de la bergerie, et puis, serait servi à quoi? De se regarder comme des chiens de faïence. Après tout, revenons à nos moutons. Vous avez maintenant une faim de loup, l'envie de dormir comme un loir, et surtout, vous avez d'autres chats à fouetter. Voilà. C'est pas mal, hein? Et donc, il nous reste plus de temps. On l'a même dépassé. Qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? On coupe? Oh, merde! Oh, bah tu enlèves juste le titre. Allez, je vous dis à bientôt.